Jour 9. Jour 9. Ce matin, les yeux collent. La veillée de la veille associée à la fatigue de la route du voyage, le tout s'accumule dans un quota de fatigue qu'on a du mal à solder. Dehors, le soleil se lève sur Karasiok, annonçant une belle journée. Si les premiers kilomètres de la route 92, qui sort de Karasiok pour nous emmener en direction de Koto Keino, n'est pas exceptionnel, c'est au bout d'une vingtaine de minutes que sa beauté se révèle. Sous ce soleil magnifique, nous avons devant nous la définition même de la taïga, de ce que les Samis appellent le vida. Cette immensité de montagnes, de marais, de lacs, des paysages à perte de vue, de nature sans fin, d'un monde qui paraît à nos yeux presque vierge et inexploré. Rajoutez à cela le soleil qui réchauffe un tantinet les moins 27, plus cette multitude de bouleaux givrés, vous obtenez un paysage qui laisse sans voix. Ce qui tombe plutôt bien vu le silence qui y règne. Ce silence assourdissant propre à ces régions de grand rien, de grand froid, de grand tout, un silence qu'on n'entend plus en tant que citadin. Parfois, nous traversons des nuages de glace qui tombent du ciel, brouillant l'horizon, brouillant le soleil, et donnant à voir un spectacle magique, mais malheureusement, la route ne nous laisse aucunement la possibilité de nous arrêter à ce moment-là pour profiter du spectacle. Nous arrivons au croisement de la route qui remonte vers Alta et descend sur Koto Keino, puis Enontekiö en Finlande. Il est l'heure de manger et on nous a parlé d'une cascade sur la route d'Alta, à peine à quelques dizaines de kilomètres plus au nord. Un parking nous attend au pied de Pikkefossen, enfin au pied, on ne sait pas trop. On entend uniquement son tumulte, sans trop savoir où elle se trouve.
Pikkefossen.
On repère bien un semblant de chemin avec d'anciennes traces qui s'enfoncent dans la neige. On se dit qu'il y a de grandes chances que ce soit ici. On reconnaît qu'en temps normal, ça doit être dégagé, sans doute même une deuxième partie qui s'enfonce pour mener jusqu'à des tables de pique-nique qui semblent totalement indisponibles avec leurs 1,50 m de poudreuse qui les recouvrent. C'est dingue de se dire et de constater à quel point les paysages changent du tout au tout en l'espace d'une ou deux saisons, que les matériaux, les éléments se mangent, des variations de température à faire pâlir un météorologue sans même broncher, parce que c'est comme ça. En à peine 5 minutes, ce qui doit l'été prendre environ une minute à peine, nous arrivons à ce qui semble être le point de vue sur Pikkefossen.
Je vous dis pas ce que ça a été pour y aller.
La cascade semble se diviser en trois parties. À gauche, elle est presque entièrement gelée dans un bloc monstrueux de stalactites, tandis qu'au milieu, elle est âprement tumultueuse, bouillonnante. Et pour terminer, la partie la plus à droite, eh bien, elle est presque normale. Un bon débit, sans glace. Une cascade, quoi. La route reprend son chemin et nous retournons sur nos pas sur l'axe Alta-Koto Keino. Koto Keino, dans notre imaginaire, était plus petit, plus intimiste, peut-être aussi moins bordélique. On fait le tour de la ville, bien sûr, pour confirmer ce qu'on sait déjà, à savoir que les boutiques, les musées, tout ça, ça tourne au ralenti l'hiver, voire carrément fermé. On le sait à chaque fois, mais bêtement, on se dit qu'avec tout le foin que font les offices de tourisme sur la Norvège, en hiver, etc., l'industrie touristique devrait se mettre au diapason, ou peut-être que ça n'intéresse pas assez de monde, surtout à cette période de l'année. Du coup, comme souvent, nous nous rabattons sur l'église, qui trône au milieu d'une petite colline avec son toit noir et rouge, qui n'est pas sans rappeler celle de Kiruna. Nous avons un peu de temps à tuer, nous nous mettons donc en quête d'une route qui s'enfonce en vue d'une éventuelle sortie pour les aurores. Après avoir regardé la carte et la topologie de la ville, nous jetons notre dévolu sur la route de Aksomiotki qui longe une rivière. Au-delà, par-dessus les montagnes, nous voyons le soleil se coucher. Au bout de quelques kilomètres, nous trouvons un petit débord juste avant un pont, pile en face du soleil dans la continuité de la rivière. Les nuages créent des masses, comme un voile, ou plutôt une grosse couette à plumes dans le ciel, laissant parfois entrevoir des morceaux de ciel bleu, et au loin, le disque solaire balance la sauce. Sauf que voilà, ce genre de coucher de soleil, c'est souvent très beau à regarder à l'œil nu, surtout lorsque l'on discerne les rayons traverser les nuages, mais ça ne donne absolument rien en photo. Nous poussons tout de même jusqu'à la fin de la route, et rebroussons chemin en direction de notre hébergement. Manque de peau pour nous, ils sont en pleine rénovation. Et après avoir été à la réception, déplacés chez les gens, magnifique photo d'ailleurs de mariage Sam accrochée au mur, sans doute des années 30 ou 40, plus des photos de famille sublimes, nous prenons possession de notre chalet. Finalement écrasés par la fatigue, devant un indice d'aurore très faible et une couverture nuageuse bien décidée à recouvrir Koto Keino de son épais manteau, nous décidons de ne pas sortir. Nous partons nous écrouler dans notre lit bateau, tout droit sorti des années 70.